l'auto-édition semble, je dis bien semble, et vous allez me répondre, un phénomène qui se répand tout doucement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on auto-édite ? Est-ce qu'on est auteur édité et auteur auto-édité ? Est-ce qu'on édite que soi-même ? Est-ce qu'on édite ses amis ? Voilà, donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous présenter et vous présenter en disant, voilà, moi, je suis Patrice Lajoie, je suis un auteur, je suis édité, mais je ne vais pas faire la suite. Hein, voilà.
Marche. Donc, je suis Patrice Lajoie, je ne suis pas écrivain. Dans le domaine de l'auto-édition, je me partage entre deux branches. D'un côté, une partie de ce que je peux faire dans le domaine de la recherche scientifique. Je fais des travaux en mythologie. Et d'un autre côté, des rééditions de textes anciens appartenant à la littérature russe, puisque ma femme et moi travaillons comme traducteurs de russe. Voilà.
Bonjour, je suis Dominique Vallée. Moi, je suis auto-éditeur et auteur parce que par choix. Parce que j'ai pensé que ça m'apportait plus de liberté, moins de contraintes avec l'éditeur. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Et comme en tant qu'auteur-éditeur, j'édite aussi des gens que j'aime bien, comme Philippe Eblis, un auteur que je lisais quand j'étais jeune à la Bibliothèque Verte. Donc, c'est vraiment un choix personnel et que j'assume complètement.
Ça marche. Bon, donc Philippe Alvic, auteur à la fois auto-édité, édité et éditeur d'auto-édition, à la fois par choix et je dirais par opportunité. Je dirais qu'à l'origine, mon parcours, je vais peut-être raconter un petit peu le parcours
oui,
là-dessus.
Oui. Je parle dans bien
oui, excuse-moi. Donc à l'origine, en fait, j'ai proposé en fait différents de mes manuscrits à différentes maisons d'édition, sans grand succès. J'ai participé à des concours où j'ai eu des prix, ce qui m'a donné l'envie en fait d'aller plus loin et de sortir mon premier livre en auto-édition pour pouvoir avoir un pressbook des articles dessus. D'ailleurs, ça m'a servi, c'est-à-dire que suite à ce livre avec ces articles, j'ai réellement été édité une fois, ma première fois, avec Angers Démon. Mais je dois avouer que ma collaboration avec l'éditeur n'a pas été très fructueuse. En revanche, ça m'a permis de découvrir ce que c'était réellement que l'auto-édition, mais je dirais dans un cadre un peu plus large, je dirais de devenir réellement son éditeur en tant que tel. Et ce qui m'a permis en fait de sortir mes prochains livres dans ce cadre-là, en sachant que de toute façon, mon premier livre qui a été épuisé en auto-édition, en fait a été republié derrière, mais vraiment en contrat d'édition chez un autre éditeur. C'est-à-dire en fait que moi je mixe en fait les deux choses, à la fois l'auto-édition, l'auto-éditeur, et le fait d'être édité chez d'autres éditeurs.
Voilà. Non, on va y venir.
Bonjour, Tim Colorex, jeune auto-éditeur, pour le coup, donc j'en suis à mon deuxième livre, donc je suis plutôt un peintre illustrateur. Donc premier livre en édition classique, et donc le second qui est frais d'avant-hier. En auto-édition, je pense que des raisons qu'on va évoquer par la suite, effectivement, certaines difficultés ou prise de contact pas toujours simple avec les éditeurs. Il y a deux personnes, donc il y a celui qui présente son bébé, et puis il y a celui qui le reçoit ou pas. On en reparlera. Et puis, je dirais que c'était pour mon cas, l'auto-édition, l'envie d'expérimenter, de savoir, de connaître, de comprendre la fabrication, la création et la fabrication d'un livre de A à Z. Donc c'est aussi du pari et une expérience supplémentaire.
Merci. Donc, un beau matin, on décide, pour des raisons X, Y, que vous avez d'ailleurs fort bien évoquées, que nous allons être auto-éditeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez fait des plans financiers ? Comment, quelle structure vous apportez ce livre ? Puisqu'il faut bien une structure, il faut des ISBN, il faut... Voilà. Donc, comment vous vous y êtes pris pour vous lancer dans l'auto-édition ? Patrice, on va refaire un petit tour, hein, tout simplement, pour voir les différentes expériences.
Pour moi, ça a commencé en 2008, en fait, parce que je cherchais de nouvelles méthodes d'édition pour des petites sociétés savantes, notamment pour ce qui me concerne la Société historique de Lisieux, dont je suis membre. Ça a l'air de rien, mais en fait, éditer un livre pour des petites structures comme ça, c'est souvent un gouffre financier et un gros problème de gestion, de stock, etc. Et à l'époque, les systèmes d'impression à la demande existaient déjà. Et mon idée, à la base, en tant que simple membre, pas du tout en engageant la société, c'était de chercher une voie possible pour faire de la vraie micro-édition, mais qui ne soit pas risquée pour une petite société qui n'a pas beaucoup de fonds. Donc j'ai pris tout simplement un dossier de recherche à moi qui traînait et qui n'aurait de toute façon pas trouvé d'éditeur local autrement. Et puis j'ai testé, je me suis lancé. Donc c'était avec un imprimeur de Lille qui s'appelle TheBookEdition.com qui a été sur le coup un peu plus satisfaisant. J'en suis resté avec un bon souvenir, même si évidemment au niveau commercial c'était rien du tout. C'était pas fait pour, c'était un test. Et puis, ben, ces derniers temps, je vais pas me vanter, mais je suis un hyperactif. Et mon gros problème, du coup, c'est que j'accumule les dossiers et que les éditeurs, eux, ne s'accumulent pas, y compris dans le domaine de la recherche en sciences humaines, où là, les éditeurs en question peuvent, en plus de ça, être très, très longs. Je suis plutôt un gars pressé. Donc je me suis dit que j'allais me prendre en main, d'autant plus que ce n'est pas le cœur de mon métier, je ne vis pas de ça. Donc j'avais nullement intérêt d'attendre, et je me suis lancé dans ce domaine-là. Et ma foi, j'en suis très très content parce que ça fait des livres qui existent.
Voilà, donc toi, ce n'était pas du tout une entreprise commerciale.
Non.
Donc tu as monté une association pour publier ces livres ou tu les montes en tant qu'auteur?
Non,
tu demandes des ISBN et tu les vends comment?
Pour les derniers en date, pour ceux qui sont faits depuis 2012, en fait, une partie donc, sont faits avec ma femme, tout ce qui concerne le domaine russe. Et là, on passe par Lulu.com. Et là, du coup,
d'accord,
c'est Lulu l'éditeur qui fournit l'ISBN et qui commercialise à la fois sur son site et via Amazon, en international.
D'accord, et qui te donne tes bouquins et donc...
Ah non, qui ne donne rien.
C'est comme un éditeur, alors c'est un éditeur.
C'est un imprimeur.
Non, c'est un imprimeur. C'est-à-dire qu'ils ont statut d'éditeur en ce sens qu'ils donnent l'ISBN, si on n'en a pas déjà un.
Ils gèrent tout.
Et c'est tout, et ils gèrent tout. Mais ça reste un imprimeur, dans les faits, ça reste un imprimeur. Donc en fait, on paye nos propres exemplaires. Mais le système...
Oui, mais c'est de l'édition à compte d'auteur.
Oui, c'est ça.
C'est pas de l'auto-édition.
Si, pour moi, c'est de l'auto-édition, mais en impression à la demande.
Exactement.
D'accord, mais c'est toi qui fais ta maquette, etc.
Exactement, oui, c'est
d'accord.
Moi qui fais...
Donc c'est une espèce de... Enfin, une espèce, c'est pas péjoratif, mais c'est entre l'auto-édition et l'édition à compte d'auteur.
Oui, voilà.
Voilà. Voilà. Ben, l'édition à compte d'auteur, c'est une édition où ça a été les grands moments de certains éditeurs dont je ne rappellerai pas les noms.
Non.
Voilà, qui éditaient tout et n'importe quoi, mais qui vous faisaient payer. Voilà, c'est-à-dire qu'on y allait, oui, on vous prend, on vous assure une diffusion, ce qui est évidemment faux. Et en fait, on payait son édition. Alors que l'auto-édition, c'est je suis mon propre éditeur, je monte une association, je suis auto-entrepreneur, je vais à l'ISBN, je dis je veux 10 ISBN pour cette association, pour cette auto-entreprise, etc. Et à partir de là, je crée mes livres, je vois mon imprimeur, je vends mes livres, ils sont à moi, j'en fais ce que je veux, je les distribue si j'ai envie, etc. Voilà. Alors que c'est pas tout à fait l'édition à compte d'auteur, c'est pas tout à fait ça. Mais on reviendra un petit peu là-dessus. Donc on a bien compris que c'était une façon de partager, en fait, tu te sers de l'auto-édition comme on se servait de la revue scientifique, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. En fait, tu publies des grands articles ou tu publies des synthèses, des bouquins.
Non, pas du tout. Pour les articles, je continue à passer par les revues.
Par les revues, d'accord.
Ça, il n'y a pas de souci. Non, ça c'est...
C'est des petites monographies, en fait. Voilà, d'accord. Que tu peux montrer, d'ailleurs.
Voilà une, donc, 280 pages. C'est une monographie, c'est plus un article.
Ah non, bien sûr, oui.
Par contre, pour les rééditions de textes russes, c'est plus restreint, plus petit. Et surtout, bon, ben,
en fait, tu te fais plaisir des choses qui n'existent plus, tu leur redonnes vie.
Exactement.
Et voilà. Et tu te fais les livres que tu as envie d'avoir quelque part aussi.
Pour nous, c'est le travail du dimanche.
D'accord.
Voilà. Okay. Tout simplement.
Donc chez les Lajoie, c'est le travail du dimanche.
On n'a pas de visée, on ne cherche pas à avoir du succès, on se fait plaisir, c'est tout. Si ça ne se vend pas, tant pis, nous au moins on aura notre exemplaire.
Bon, Dominique, toi c'est un peu particulier parce qu'en plus c'est pas du livre, je dirais, simple, c'est de la BD, c'est pas plus compliqué de faire des albums?
Non, un album, une BD c'est comme un autre livre. Mais contrairement à ce que tu viens d'annoncer, je ne fais pas que de la BD, je fais de la BD accessoirement.
Oui, il y a les deux.
Mais voilà. Parce que moi j'ai commencé en fait au départ en écrivant la biographie de Philippe Eblis. Oui. Et au moment où j'ai écrit ça, je suis allé le voir en Belgique, il se trouve qu'il n'avait plus d'éditeur. Et j'étais pas du tout éditeur à ce moment-là, j'avais édité aucun livre, je comptais juste éditer la monographie à compte d'auteur comme ça, pour mon plaisir, et je m'arrêtais là. Et comme il n'avait pas d'éditeur, j'ai un peu tenté un coup de bluff en lui disant, bah, écoutez, je peux devenir votre éditeur. Je m'étais dit, il va dire non. Il n'y a pas de raison qu'il me dise oui, il ne me connaît pas. Et il m'a dit oui. Donc du coup, je me suis lancé dans l'édition des nouveaux livres de Philippe Eblis, des inédits de Philippe Eblis, que nous avons été nombreux à découvrir à la Bibliothèque Verte quand on était adolescents. Et ça a commencé comme ça. La bande dessinée, elle arrivait après. Elle arrivait après parce que, par ailleurs, je suis peut-être aussi un peu hyperactif, et comme beaucoup, je pense, ici, d'ailleurs, et il se trouve que je dessinais, parce que j'écris des scénarios et je dessinais sur moi un blog, et on me disait, pourquoi tu ne les sors pas en BD? Je dis, mais ça intéressera personne. Alors, je me suis dit, bon, je vais les sortir en petite série, et c'est comme ça que j'ai trouvé un éditeur de bande dessinée en petite série, qui m'a permis de les lancer en petite série. Puis comme ça se vendait bien, ben, je continue et j'en fais des nouvelles. Mais vraiment, c'est la bande dessinée, j'ai commencé vraiment accessoirement. Il se trouve que quand on commence, après, les gens viennent vers vous. Et maintenant, j'ai des vrais projets de bande dessinée avec des vrais dessinateurs, des gens qui ont un talent fou et qui viennent vers moi parce qu'ils ont vu que je savais faire, que je savais diffuser et que ça marchait, quoi.
Oui, on rejoint un petit peu ce que disait Philippe, c'est que c'est aussi une carte de visite en chair et en os, je peux dire en papier, quelque chose de fini qui permet de prendre des contacts, d'aller plus loin.
Exactement.
Et de passer à autre chose si on le souhaite, tout en gardant ça. Mais en même temps, est-ce que tu as fait des... Quand tu as démarré, on comprend que ça s'est fait par phase, mais est-ce qu'il y a eu une volonté commerciale avec un plan commercial?
Non,
c'est le fun.
Oui, ça a été vraiment un jeu. Disons que je me disais, il existe un public d'anciens lecteurs de Philippe Eblis, et ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire que quand je lance un bouquin de Philippe Eblis, j'en vends plusieurs centaines, j'en vends pas 50 000, mais j'en vends ces centaines, voire des milliers. Donc il y a un vrai public. Mais le public, quand je le vends, il suffit que je le mette sur Internet, les amateurs de Philippe Eblis le trouvent, donc ce n'est pas un problème. Après, quand je sors d'autres livres, ça dépend de ce que je sors. Là, quand je sors un livre historique sur les vieilles bandes dessinées, j'ai un public d'amateurs qui... ce n'est pas moi qui les achète, c'est le sujet. Donc, peu importe. Et d'ailleurs, je disais, par rapport à Philippe, mon voisin, et par rapport à beaucoup d'autres auteurs autorités, je n'ai envoyé aucun manuscrit à aucun grand éditeur, jamais. Donc, pour l'instant, on ne m'en a pas refusé. Ça viendra un jour, mais...
La question, je vais la poser aussi aux autres. Bon, bien que Patrice nous ait expliqué que c'était un petit peu différent pour lui, mais
non, ça, je rejoins sa démarche.
Quand tu fais un album, quand tu fais un livre, quand tu fais un livre historique, etc., est-ce que quand même tu cherches une à défaut d'une rentabilité à couvrir tes frais?
Ah oui.
Voilà. Il y a une démarche quand même commerciale en ce sens-là.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que avant de lancer un livre, j'essaie de réfléchir, savoir au niveau du tirage combien je peux lancer pour me dire si je vais rentabiliser ou au moins pas perdre trop d'argent sur l'histoire. Pour l'instant, je me suis plutôt bien débrouillé parce que je n'ai pas perdu d'argent, donc ça va. Mais c'est vrai qu'au début, je préfère être trop prudent, quitte à faire des retirages plutôt que de me lancer dans un tirage de 1000 et puis qu'il m'en reste 800 sur les bras. Donc oui, de ce côté-là,
Qui est le travail aussi de l'éditeur, ça.
Exactement.
De se dire attention.
Oui, d'avoir des débouchés.
Il faut au moins que je couvre mes frais, puis on verra. Et avec celui-là, voilà. Je sais que toi, Philippe, c'est un travail que tu as fait, puisque tu couvrais régulièrement tes frais. Je connais un peu l'histoire parce qu'on en a parlé, mais je te laisse la raconter.
Oui, en fait, moi, j'ai commencé avec une autre phase. J'ai pris Pardon.
On n'est pas habitué.
Une phase, maintenant c'est Eddy Livres qui existe, mais avant ça s'appelait en fait des pensées précurseurs, genre BookNote, un petit peu des livres à la demande. C'était une première expérience sympathique, mais sur laquelle en fait j'ai pas poursuivi parce que justement j'ai été assez vite en fait restreint. Et en fait, moi je suis parti en fait, vous posez la question derrière un petit peu la structure. Moi j'ai regardé en fait, je me suis posé la question quand j'ai créé ma structure de passer directement en maison d'édition pure et dure. Donc, enfin, moi, l'éditeur en société ou en tant qu'association. En fait, et purement simplement, j'ai fait un ROI, j'ai fait un calcul de ROI et je me suis rendu compte.
Tu as fait un calcul de
ROI, retour d'investissement, c'est-à-dire de savoir effectivement si c'était intéressant de créer une société.
Attention, hein.
Oui. C'est mon boulot quand même.
Toi, tu es en association en
Oui, c'est en association. Ouais.
Donc, effectivement, en fait, j'ai regardé ce que m'apportait une société, ce que m'apportait une association et j'ai préféré créer une association. Et quand, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu le statut d'auto-entrepreneur qui arrivait, j'ai regardé ce que c'est intéressant de basculer en auto-entrepreneur. Bon, et j'ai regardé, je m'ai conclu que c'était plus intéressant de rester en tant qu'association. Donc, à l'heure actuelle, donc, je suis en association. Ça me permet, en fait, déjà, j'assume entièrement tous mes choix, en fait, sur mes livres. Donc, j'assume les couvertures, la diffusion, le nombre de pages. J'assume aussi les fautes d'orthographe et toute autre coquille qui peuvent se trouver dans les livres. Je suis entièrement maître du livre.
C'est important. Ça.
C'est important. Donc ça, j'assume bien là-dessus. Un des objectifs de quand j'ai créé Queen Novi, c'était naturellement jamais mes fonds. Mais l'objectif, c'est que chaque livre soit capable d'amortir le suivant. C'est de dire qu'on puisse continuer l'aventure et de pouvoir justement continuer à éditer. En sachant que Queen Novi existe depuis 2005. À l'heure actuelle, Queen Novi est entièrement autonome. Je ne suis pas plus tout seul à être édité sur Queen Novi. En sachant que le principe, c'est effectivement comme si une association, c'est un petit peu un label. Si je donne la structure à d'autres auteurs, s'ils le veulent, en fait, ce qui leur permet en fait de sortir en fait leur livre et qui, ça leur permet aussi de découvrir ce que c'est que ce milieu-là. C'est-à-dire que les personnes, l'objectif, c'est pas tellement en fait de continuer sur Queen Novi avec eux, c'est de leur montrer comment ça marche et après de voler de leurs propres ailes. Donc d'ailleurs, je suis très fier parce que une de mes poulines, si je puis me permettre ce terme, avait sorti un de ses livres chez moi. Je lui ai bien appris effectivement comment ça fonctionnait, donc c'est-à-dire effectivement comment récupérer l'ISBN, les ratios de voir effectivement la rentabilité sur un livre, de voir en combien de temps on pouvait l'amortir, etc. Parce que justement ça, c'était l'intérêt de travailler avec ce premier éditeur, c'est qu'il m'aura donné les bases pour voir effectivement comment ça fonctionnait. Et à partir de ça, sur Queen Novi, en fait, j'ai appliqué ces éléments pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Queen Novi est entièrement autonome, et qu'effectivement, on continue à se faire plaisir, à sortir. Bon, moi, je me sors un livre par an. L'année dernière, étant particulière, j'ai eu un deuxième livre de sortie, mais c'était vraiment un livre édité à côté.
D'accord. Alors, Jim, et toi, alors, tu nous fais des, comment tu dis, non, là, des plans de rétro, je ne sais pas quoi,
héroïque.
Là.
Je pense qu'il y a quatre
films. Et oui, non, mais c'est ce qui est intéressant, oui.
C'est tout neuf, hein, c'est tout récent. Alors, j'ai envie de revenir sur quelque chose après, mais bon, donc, dans un premier temps, donc, le premier livre, cher l'éditeur, ça m'a permis tout simplement de voir comment ça marche, comment ça vit, justement un peu les questions de rentabilité, c'est-à-dire combien d'exemplaires il faut vendre pour revenir dans les fonds, etc. J'ai appris à interposer via mon éditeur un petit peu le fonctionnement et la vie du livre. Donc j'en ai tiré des enseignements personnels, évidemment. Et ensuite, effectivement, quand je suis parti dans l'auto-édition, alors je reviens un petit peu, effectivement, je suis allé voir ces sites un petit peu qui proposent du livre à clé en main. Avec donc la donne où effectivement on n'avance pas d'argent, mais on rachète ces livres hein, finalement, et on marche dessus. J'ai fait un survol, j'ai été un petit peu partout. Et alors, on dirait si j'ai tort ou pas. L'analyse que j'en ai faite, c'est qu'effectivement, si on part sur un tirage, je dirais pas trop ambitieux, 100, 200, 300 exemplaires, apparemment, ça vaut le coup d'aller sur ce type de formule. Après, bon, j'étais un peu plus ambitieux, on verra à tort ou à raison, parce que le livre est tout neuf, on en reparlera d'ici un an. Je me suis dit, bon, pourquoi pas passer par un vrai imprimeur. Et donc là, par contre, ça suppose 1000 exemplaires. C'est le minimum pour avoir des tarifs honnêtes. Donc, chose que j'ai faite. Donc là, il y a une prise de risque, hein, parce que effectivement 1000 minimum, donc il faut des fonds. Hein, tout le monde ne les a pas, ce n'est pas toujours évident. Ceci dit, au long cours, je pense que, parce qu'on parlait un peu de rente, c'est les sujets qui fâchent, on parle rarement d'argent, mais au niveau rentabilité, clairement, de mon analyse, en faisant un gros tirage, donc il y a la prise de risque, il faut mettre l'argent, il faut faire de la pièce, il faut tout faire, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de travail, j'ai un peu financier, mais j'ai tendance à croire que si le projet est viable, hein, si ça marche, ça se vend, qu'au niveau rentabilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Je laisse rebondir mes collègues là-dessus.
Pour la question du tirage.
Alors,
c'est peut-être une spécificité pour l'illustration où l'offset l'emporte encore haut la main sur la plupart des gammes du numérique, mais quand on fait du texte, et on peut imprimer en numérique à des tirages beaucoup, beaucoup plus faibles et avec des coûts qui ne sont pas disproportionnés.
Oui, alors je me calais sur l'image.
Voilà.
Ouais, pas du roman.
On arrive maintenant à trouver des imprimeurs qui font du numérique en image qui tient la route. Casa l'a fait récemment d'ailleurs, Casa lui-même avec le Jardin délicieux qui est auto-édité et qui est imprimé en numérique. Ça marche très bien, mais après il y a d'autres imprimeurs qui font du numérique et où les images sont absolument immondes. Donc c'est vrai que l'offset reste encore ce qu'il y a de mieux pour ça, et effectivement 1000 exemplaires là ça fait baisser les prix, mais on se retrouve avec un stock monstrueux.
On peut effectivement parler des impressions. Vous pourrez donner vos recettes, on va dire, mais si j'ai bien compris, aucun de vous, pour l'instant, n'est parti, à part peut-être toi, Jim, mais n'est parti avec l'idée de dire, voilà, moi, je vais en vivre. C'est un plus, c'est forcément un plus. Toi, un livre paye l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, en dehors du fait qu'un livre paye l'autre, vous faites du bénéfice ou vous souhaitez faire des bénéfices? Voilà. Est-ce que vous en tirez un bénéfice? Est-ce qu'il y en a un bénéfice quelconque? Voilà.
Bah, lui, c'est peut-être un peu
le bénéfice, je ne sais pas.
Toi, tu l'espères, en tout cas.
Il y a deux jours le livre. Moi, je veux finir un petit peu par le premier. Je pense qu'effectivement, enfin, pareil, le but, en vivre, non, hein, clairement, ça me paraît qu'il faudrait vraiment sortir.
Par éditeur, c'est pareil, on n'en vit pas non plus quand on passe par un éditeur.
Oui. Dégager des bénéfices, je pense que c'est possible, quand même, comme une affaire à suivre. Par contre, bah, pour rejoindre peut-être un petit peu quelque part, moi, la perspective que j'ai par rapport à des projets, c'est effectivement, je calcule même pas en termes de bénéfices, et je me dis si déjà j'arrive à vendre suffisamment pour que ça puisse me générer les fonds pour me faire arriver dans ce courage là pour penser déjà au suivant, c'est déjà le pari à gagner. Si tant est qu'ils vont très bien, ben effectivement, là ce sera du plus et du bonus, mais c'est pas l'idée de base, c'est pas l'idée principale au départ. Donc c'est ce que tu disais, en fait, finalement, je crois que quand on fait un livre, on découvre un univers, on fait des rencontres, on va dans des endroits, et puis je crois qu'on attrape un peu le virus, hein, finalement, tout simplement, de tout ça. Et puis, je pense qu'il y a ce petit côté un peu de... Je pense qu'un livre, faire un livre, j'en parlais avec des amis il y a peu de temps, c'est un peu, ça fait partie de cette quête d'éternité, je dirais, chez tous les artistes. Et c'est un moyen, je pense, quelque part, de poser des choses qui vont perdurer, ne serait-ce que par les dépôts à la BNF, hein, c'est symbolique, mais pas que. Donc je pense que, voilà, une fois qu'on tremble un an, on a cette envie d'amener un petit peu quelque chose, et puis que ça nous dépasse, et puis que ça continue à vivre au-delà de nous, quoi.
Oui, mais justement, alors on le vend où, ce livre? Parce que l'éditeur, lui, l'intérêt, c'est qu'il a un réseau, il a un diffuseur, il a un distributeur. Il y a des commerciaux qui vont aller mettre, si tant est que ça marche, mais bon, qui vont aller faire des placements dans les FNAC. Donc, ce livre, ces livres que vous éditez, auto-édités, etc., comment sont-ils vendus? Voilà. Est-ce qu'Internet aujourd'hui, par exemple,
pour mon cas personnel, effectivement, comme c'est un marché de niche, j'arrive à le vendre essentiellement sur mon site. Donc j'arrive à les vendre, mais ça dépend. J'imagine que des romans de fiction, comme mon collègue Philippe, c'est pas forcément la même chose, mais peut-être. Je pense que quand on se vend soi d'abord, il faut déjà se faire connaître. Donc là, les salons comme Zone Franche ou d'autres, mais ce sont des endroits essentiels pour se faire connaître, rencontrer des gens et montrer son travail. Quand on veut vendre directement sur Internet, il faut déjà soit que le sujet intéresse l'acheteur potentiel, soit que le nom sur le livre soit lui-même porteur. Bon, avec Philippe Ebli, moi j'ai un nom qui est porteur auprès au moins des lecteurs nostalgiques, donc j'arrive à les vendre sans être sur un salon. Après, quand je vends un livre historique sur la bande dessinée, les gens ils achètent l'histoire sur la BD, ils ne m'achètent pas moi. Après, quand je vends un truc plus personnel, c'est forcément toujours plus compliqué. Et j'imagine que c'est pareil pour mes collègues, et donc les réseaux donc sont peut-être pas pareils. Par contre, je rebondis une chose, c'est au niveau de la diffusion, enfin pas de la diffusion, du nombre d'exemplaires. Personnellement, moi j'ai toujours préféré faire des tirages un peu moins importants, parce que même Philippe Ebli, je fais des tirages de 500 en me disant 500 déjà, je les écoule et je vois si après je fais plus. Alors, évidemment, c'est pas de l'illustration, donc c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Mais même en illustration, maintenant, il commence à y avoir des... là, j'ai sorti un livre, donc un livre illustré avec des illustrations couleurs sur 150 pages, et je l'ai sorti en numérique à 300 exemplaires. Voilà. C'est un livre de 150 pages, papier glacé, couleur. Forcément, c'est plus cher qu'une bande dessinée de 48 pages, on est d'accord. Donc, je pense que le tirage et l'imprimeur, ça tout dépend de ce qu'on fait et du public qu'on veut viser. Donc, il n'y a pas de recette miracle.
Moi, je voulais dire, en fait, techniquement parlant, effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à faire des tirages de 500 exemplaires.
Oui.
Pourquoi ? Comme oui, simplement pour un problème de stockage. Non, c'est pas tellement
le stockage, oui.
Le stockage, parce que ça prend une place monstrueuse. J'ai vu aussi des collègues, en fait, qui avaient fait aussi l'auto-édition, qui, en fait, les avaient stockés dans les greniers et qui, derrière, ont eu des petits problèmes de rats. Oui. Ou en fait, d'infiltration, et donc, ils se sont retrouvés avec des stocks entièrement dévastés. Inutilisable. Donc moi je prends un stock de 500 exemplaires, beaucoup plus facile à gérer. Derrière, du point de vue diffusion en tant que tel, comme c'était la question d'origine, moi j'utilise principalement trois canaux. Les salons, internet et vente directe. Parce que pareil, en fait, moi je commence à avoir un petit nom. Et en fait, les gens viennent me contacter directement via mon site pour se procurer des livres. Au démarrage, j'avais essayé de faire de la diffusion en tant que tel. Mais effectivement, c'est un élément en fait qui est très coûteux et qui nécessite beaucoup de temps pour le gérer. Donc j'ai vite laissé tomber.
Sans compter que plus on a d'intermédiaires, plus on multiplie les risques de ne pas être payé. C'est-à-dire que comme quand on travaille avec un éditeur, des fois l'éditeur oublie de nous payer, et quand on travaille avec un diffuseur, des fois les diffuseurs oublient de nous payer. Moi, ça m'est arrivé aussi. C'est pour ça que je ne travaille plus avec un diffuseur.
Moi, j'ai envie aussi peut-être démystifier justement un petit peu les systèmes diffusion-distributeur. Bon, effectivement, hein, quand on est dans une grosse maison d'édition, on se dit oui, le bouquin il va être chez Cultura, hein, à la fin, au fur et dans toutes les bonnes références, hein, ce qui est vrai, hein, dans l'absolu. Après, il faut voir comment ça marche. Hein, donc, effectivement, il y a l'histoire du coût, parce que diffuseur-distributeur, ils mangent beaucoup.
Oui.
On ment beaucoup sur le prix, hein, de vente du livre, hein, le public. Donc ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, la durée de vie, vu la profusion des livres, vous allez à la FNAC, tous les trois jours, ça change, hein, les rayons. Donc votre livre, il va être en prime, hein, en tête de gondole pendant peut-être une
quand
semaine.
Il y est, quand
ensuite,
il y est,
s'il y est.
S'il y est, parce qu'il n'est même
pas.
Et
ensuite, il va passer en rayon, il va passer à la trappe. Bon. Si on est très connu, c'est pas nécessairement un souci. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, moi, j'ai tendance à croire que finalement, effectivement, quand on fait son propre livre, on va devoir le vendre soi-même. Hein. On est le chaland. Donc, je rejoins la vente directe, internet, salon. Hein, ça, c'est, je pense, les clés pour promouvoir et vendre le livre. Et en revenant sur les grands réseaux de distribution, oui, alors bon, il y a eu 5000 exemplaires dispatchés un peu partout en France. Il y a les retours, il y a les invendus, j'en passe des meilleurs. Le manque de lisibilité très courte du livre, sachant en plus, pour finir, donc je vais revenir sur les chiffres un petit peu, je fais un chiffre très aléatoire. On va dire que ce qu'on va rentrer dans notre poche, Chez un éditeur, ça va être 1, et puis si on est en auto-édition, ça va être 5. Ça inclut quoi? Ça veut dire que si on en vend 5 fois ou un livre, un chiffre au hasard, ce n'est pas le bon chiffre, ma foi, on est au même résultat. Donc maintenant, est-ce qu'on a envie juste de faire ce qu'on a envie, soi-même, faire ses livres, ou est-ce qu'on veut être une star, c'est-à-dire être visible partout? Bon, c'est un débat aussi, éventuellement, sur le pourquoi ou le comment de l'auto-édition.
Oui, non, mais je pense que de toute façon, y compris chez les grands éditeurs, les livres ne sont visibles que s'ils sont en pile. Voilà. Donc, si tu fais un bouquin et qu'il est en pile, t'as une chance, etc. Si on t'en place deux, ça ne sert strictement à rien. Ça revient en retour. L'éditeur paye le retour, l'auteur paye le retour. Et c'est une mauvaise opération pour tout le monde. Alors ensuite, aujourd'hui, quand même, l'avantage d'Internet, me semble-t-il, fait que tout livre a une visibilité.
Oui.
Puisqu'il peut se retrouver il peut se retrouver chez Amazon.
Oui.
Il peut se retrouver. Enfin, est-ce que vous passez aussi par des réseaux du type Amazon ou du type ou même Price Minister, des boutiques comme ça? Qui travaille?
La chose la plus simple, c'est que quand on passe par Lulu comme imprimeur, c'est l'une des options proposées et elle est totalement gratuite. Alors évidemment. Ça a quelques applications quand même, du moins dans notre cas. Nous, ce qu'on voulait, Victoria et moi, c'était de toute façon être lu, point. Donc les bénéfices, ce n'était pas trop vraiment notre question, mais si le livre n'était présent que sur le catalogue, sur le catalogue de Lulu, il n'était pas visible.
Oui.
On peut toujours chercher, c'est assez mal indexé dans les moteurs de recherche, donc ce n'est pas génial. L'option Amazon, c'était extrêmement séduisant tout de suite. Mais du coup, il faut prévoir l'augmentation du prix du livre de à peu près 40%. Alors on fait des bénéfices, mais en effet que quand quelqu'un achète sur Lulu. Quelqu'un qui achète un de nos livres sur Amazon, nous on gagne quelques petits centimes. C'est tout. Mais on s'en fiche, c'est pas la question. Ce qui nous importe, c'est que la personne qui va acheter nos livres sur Amazon va avoir les frais de port gratuits.
Attends, le prix du livre est unique.
Non, parce que Lulu est canadien. Il faut le savoir. Ce qui fait que quand on met un livre en vente 10 euros sur le catalogue de Lulu, Lulu facture en plus la TVA et les frais de port. Mais le livre, une fois qu'il est introduit sur Amazon, il ne va pas être vendu 10 euros, il va être vendu 11 euros et quelques centimes. Mais c'est pas grave parce que Amazon prélève sur sa marge les frais de port et donc de toute façon pour le lecteur ce sera moins cher.
Alors c'est eux qui font la démarche vers Amazon, qui te proposent.
Oui, en fait ils intègrent automatiquement les livres pour lesquels on fait la démarche.
D'accord.
Dans le catalogue d'Amazon. Ça prend quelques semaines pour être pris en compte et après il n'y a rien à gérer.
D'accord. Dominique, toi,
Pour l'instant, je ne passe pas encore par Amazon, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue. Pour l'instant, je passe. Par contre, j'essaie d'avoir un peu de visibilité en dehors de mon site en utilisant Price Minister, qui sert essentiellement de vitrine. C'est-à-dire que je vends un peu sur Price Minister, mais ce n'est pas l'essentiel de mes ventes. Par contre, ça permet d'être vu. Et selon les supports, par exemple, sur tout ce qui est bande dessinée, il y a des bases de données comme BDTech qui permettent aussi d'être vu. Alors là, on n'est pas vendu, mais on est vu. Ça permet aussi de la visibilité. Et quand on est un auto-éditeur, on essaie d'avoir un maximum de visibilité parce que c'est ce qu'on n'a pas, justement. On n'a pas de diffusion, on n'a pas de visibilité. Donc, il faut que les gens sachent qu'on existe pour qu'ils puissent avoir envie de nous acheter. Et ce n'est pas le plus facile.
Je pense qu'effectivement, Price Minister, c'est un très bon...
Ouais.
C'est un très beau. Moi, j'ai une boutique. Non.
Mais
c'est un très bon outil parce qu'à partir du moment où on a, même si le bouquin par hasard n'existe pas parce que il vient de sortir, on le scanne, et eux, ils ont des moteurs de recherche, mais c'est absolument infernal. Ouais. C'est-à-dire que tu tapes le titre et immédiatement t'as tous les il y a une visibilité vraiment très,
et gratuite.
Très et gratuite et en très plus. Importante.
Moi, en fait, du point de vue visibilité, je fonctionnais de façon différente. En fait, il y a des bases de données de libraires, genre Edilivre, Scribe et compagnie, en fait, sur lesquelles en fait, moi, je me suis référencé pour les différents livres. Donc, ce qui m'a donné automatiquement le référencement sur Amazon. ainsi que sur d'autres sites de vente en ligne, en sachant que je ne les utilise pas. C'est-à-dire que, par exemple, la visibilité est donnée. Mes livres sont tous disponibles officiellement sur Amazon, mais les commandes ne sont pas passées par Amazon. J'ai la visibilité, mais je n'utilise pas ces sites.
D'accord. Plus mystère, pareil. Tu passes du coup par le référencement libraire pour apparaître sur Amazon.
Exactement.
Voilà, c'est encore un autre chemin.
Ça m'intéresse.
Oui.
On en causera.
Voilà.
Tu verras, c'est très simple. Très rapide, c'est-à-dire que la propagation est virtuellement.
Ça m'intéresse beaucoup.
Il y a juste en fait certains sites marchands qui ont besoin d'autre chose, genre la FNAC, Virgin, ouais, etc.
D'accord. Donc,
en fait, moi je fais directement la démarche vers la FNAC. Parce que en fait. Du point de vue coût, je trouve qu'ils sont les moins chers et en plus ils payent correctement, c'est-à-dire qu'ils payent à 90 jours, alors qu'il y a d'autres sites effectivement où on peut attendre un petit peu longtemps, donc je les ai un petit peu abandonnés.
D'accord.
Et en fait, moi, du point de vue visibilité, donc c'est aussi principalement quand je sors mes livres, j'ai beaucoup d'articles de presse qui sont publiés dessus, ce qui me donne encore plus de visibilité. D'ailleurs, pour ne pas le citer, j'ai reçu en fait il y a 2 semaines en fait le dernier jeu de rôle magazine où dedans en fait j'ai une double page en fait sur mes livres. Et donc je sais que là, c'est typiquement en fait, le retour en fait, sur mes livres de visibilité est assez énorme.
Ah, alors on va en parler.
Donc moi, pour le coup, tout ce qui est Internet, affaire à suivre.
Bonne idée.
J'écoute d'ailleurs. Avant de partir sur l'autre sujet, je dirais, parce qu'on parlait de diffusion, distribution, je dirais finalement qu'on a travaillé pendant des mois, voire peut-être plus sur un livre. En plus, on a mis l'argent. Je dirais quel meilleur commercial que soi-même. Hein. Pour le coup, je pense que effectivement, si on va genre dans une FNAC, Cultura, Libraire Indé, on va être, à mon sens, beaucoup plus motivé et beaucoup plus passionné pour vendre son livre et séduire et faire qu'il soit pris qu'un commercial d'un réseau XY qui viendra avec sans doute une centaine de livres sous le bras à rentrer dans un carton.
C'était une bonne.
Je voulais rebondir sur ce thème.
Oui.
Effectivement, sur les services de presse.
Voilà, les services de presse. Oui.
En revanche, ce qui est aussi très important, ça je l'ai vu parce qu'en fait, ça fait quand même une dizaine d'années que je fonctionne de cette manière-là, c'est de bien tomber sur les services de presse sur lesquels on va être sûr en fait d'avoir un article.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup en fait des sites internet qui existent qui disent donnez-nous vos livres, on vous mettra une critique, bonne ou mauvaise, mais une critique. Et on s'aperçoit qu'il y en a relativement peu qui le font. Donc il faut bien cibler les sites, en fait, je dirais, sérieux par rapport aux autres. Bon, il y en a, on va dire, ils sont débordés, donc ils n'ont pas le temps, en fait, de traiter les services de presse. Mais il faut qu'ils le disent. Et donc, en fait, moi, j'ai déjà repéré un petit peu les sites, les blogs, en fait, qui sont sérieux, les personnes, en fait, qui réagissent, qui feront des articles, que des sites qui, en fait, recevront les services de presse, et après, ils disparaîtront de la nature.
Service de presse ou en autre service de presse? Parce qu'après tout...
C'est une bonne réflexion, et en même temps,
oui.
Je ne suis pas sûr que la réponse soit évidente. Pour ce qui nous concerne, par exemple, pour le petit roman de Vassili Avenarius, on a fait 2 services de presse, c'est tout. Un pour la revue Galaxy et un autre pour Bifrost, donc les 2 principales revues de science-fiction en France. On a eu dans chacune un très bon papier. Pas de problème, vraiment. Et c'était pas de l'éloge gratuite. On connaissait pas les 2 auteurs. Impact au niveau des ventes.
Oui.
Voilà. Des critiques qui étaient très bonnes et en même temps, en fait, les ventes ont continué comme avant. C'est tout. Et j'ai constaté ça aussi avec les choses que je fais là vraiment au niveau professionnel. C'est pas parce qu'on a plein de critiques bonnes qu'on va vendre. Ça, c'est pas lié. Je suis absolument pas sûr que ce soit. Il y a d'excellents bouquins qui vont séduire la critique, qui vont avoir une trentaine de blogs qui vont dire oui c'est génial, et puis en fin de compte le bouquin il va vendre 500 exemplaires et c'est tout.
Je pense aussi que ça c'est lié aussi au sujet, c'est des sujets qui sont très pointus et donc il faut après trouver son éditeur.
Je parlais pour des éditeurs en place, comme de Noël par exemple.
Et moi je fais assez peu de services de presse, sans doute par manque de temps parce que je devrais en faire, mais par contre j'utilise un autre moyen. Quand je sors un livre, comme il se trouve que tous les mois j'écris un article dans une revue qui paraît en presse, je l'écris gratuitement, donc en paiement, entre guillemets, ils me permettent de passer les publicités dont j'ai besoin. Donc je profite de ce support pour annoncer les livres que je sors. Et là, je peux vous dire que c'est un gros impact. Il n'y a aucun article, c'est juste dire, voilà, ça, ça existe, ça vient de sortir. Je ne dis pas du bien de mes livres, je peux en dire en vrai, mais pas dans, dans l'occurrence, c'est juste un placard publicitaire. Et ça, c'est un impact qui est vraiment énorme parce que les gens voient quelque chose qui est susceptible de les intéresser. Et ceux que ça intéresse, ils commandent. Donc, sans faire de service de presse, ça fonctionne aussi. Après, évidemment, je pense que les services de presse sont utiles, ne serait-ce que pour dire qu'on existe. Après, que l'article soit bon, c'est mieux. Mais même s'il n'est pas bon, ça peut marcher quand même, parce que le dernier Astérix, même s'il est mauvais, les fans d'Astérix, ils l'achètent quand même. Donc, l'important, c'est qu'on sache qu'il soit sorti. Donc, l'important, c'est savoir qu'on existe. Et ça, c'est le plus dur. Et le service de presse, ça sert surtout à ça.
Je vous dirai là-dessus, en étant tout à fait d'accord avec toi, c'est que moi, les services de presse, au démarrage, j'en faisais très large. Et en fait, j'avais relativement peu de retours. Et que donc, derrière, en fait, maintenant, je cible. Maintenant, en règle générale, en service de presse, j'en fais maximum 5-10. À chaque fois, en fait, que je sors un livre, pas plus.
Ça suffit.
Et ça suffit largement.
Oui.
Oui, pour avoir là, pour le coup, encore une fois, à suivre un moment. Ceci dit, ça me paraît évident, il faut être visible. C'est-à-dire que, vu le nombre de choses qui sortent, que ce soit en livre, mais partout, en musique, en cinéma, les gens ne sont pas censés savoir qu'on a fait quelque chose. Donc il faut une visite, il faut se rendre visible, il faut informer. Signifier qu'il s'est passé ça ou qu'il y a ça qui est sorti ou qu'on a fait quelque chose. Après, je pense effectivement que ce n'est pas un sésame absolu et même à cette époque de médias à tout craint, moi j'ai tendance à croire, parce que j'ai d'autres activités, que le bouche à oreille, la chose très humaine, des gens qui, ça marche très bien avec le cinéma aussi, hein, des gens qui vont voir un film qui n'est pas nécessairement bien critiqué ou qui n'a pas eu une grosse promo. Et puis, au bout de 3 mois, on se dit, voilà, c'est dingue, il a fait 3 millions d'entrées, au bouche à oreille, on connaît cette expression. Je pense que ben, ça reste aussi quelque chose qui peut fonctionner avec le livre aussi.
Alors, pour terminer cette table ronde, en guise de conclusion, quel est votre résultat, c'est pas du tout le mot que je cherche, mais quelle est votre opinion maintenant, après coup? Est-ce que c'est je continue? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait en auto-édition, prêt à continuer? Est-ce que l'expérience, ma foi, était uniquement ponctuel et que vous allez passer à autre chose. Quel est le constat final? Voilà le terme que je cherchais. Quel est le constat final?
Alors, constat final. Content.
Et projet.
Content que les livres existent, oui. En même temps, bon, j'ai clairement conscience que, comme il s'agit de l'auto-édition, comme on l'a dit à plusieurs reprises, on est seul maître à bord, mais aussi il faut être capable d'assumer toutes les bêtises qu'il y a dedans. Donc les coquilles, les éventuelles bévues, les oublis, les choses comme ça. Bon, quand on fait de l'impression à la demande, après c'est facile, on peut corriger le tirage suivant, c'est pas un problème, si ce n'est qu'on a un peu blousé le précédent lecteur. Mais ça, c'est quelque chose qui me laisse insatisfait quand même. Cela dit, je suis content que ça existe. Je suis content que ces livres soient présents et ben en fait on a déjà rempli notre planning pour l'année prochaine.
D'accord. Donc satisfait.
Ah, oui, bien sûr.
Quelques insatisfactions, mais globalement une expérience qui sera renouvelée. Dominique Vallée.
Moi aussi très satisfait. Le seul souci que j'ai par rapport à l'auto-édition, c'est que comme c'est l'auto-édition, on fait quasiment tout soi-même. On se fait un peu aider. Moi, je sais que je me fais aider pour les corrections, pour avoir un regard extérieur par ma femme qui fait les choses très bien. Mais quand même, globalement, on fait presque tout seul. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps et que dès qu'on en fait un nouveau projet, ça prend tout de suite des proportions très, très importantes. Et des fois, on aimerait bien se reposer sur un éditeur qui partagerait le travail avec nous et qui nous laisserait plus de temps pour vivre un petit peu à côté. Ceci dit, je ne regrette pas et j'ai encore des tas de projets pour mes livres à moi ou des livres d'autres gens que j'apprécie. Et donc je continuerai et tant que ça marchera, je continuerai.
Jim ?
Oui, bah moi je ne vais pas faire de constat. Je suis l'air d'aventure. Parce que c'est vrai de découvrir, justement, de fabriquer de A à Z, c'est épuisant, c'est long. Moi aussi, ça a dépassé nettement ce que je m'étais mis dans la tête au niveau du temps de travail, de l'énergie, des recherches.
Oui.
Mais on apprend aussi. J'ai appris beaucoup de choses dans tous les sens. Donc, pas de constat. Alors, moi, je dirais, donc je suis plutôt sur l'image, mais il y a du texte aussi. Donc, je dirais, quand on fait une image, s'entourer d'un bon photographe. Quand on fait du texte, avoir un correcteur exceptionnel. un bon imprimeur, tant qu'à faire. Et peut-être, on n'en a pas du tout parlé, je dirais, peut-être pour les gens. Le peu de gens qui sont là, mais qui seraient peut-être intéressés, c'est que les démarches administratives sont d'une simplicité absolue. Et que, notamment, d'avoir des numéros d'ISBN, c'est gratuit. Hein. Chose qu'on ne dit pas au départ. Finalement, on croit qu'un livre, c'est un truc un peu improbable à faire. Donc, juste sur le côté purement technique, administratif, c'est gratuit et simple. Hein. Ça, c'est peut-être à préciser. Voilà. Et puis, le constat, on fera plus tard. Hein. Bon.
Moi, j'ai. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes différents collègues. Moi, je suis très satisfait en fait, de ce que j'ai fait de l'auto-édition, sachant que effectivement, ça me permet en fait, d'avoir la maîtrise en fait, de ce que je fais. Par contre, effectivement, c'est très chronophage. En revanche, systématiquement, en fait, pour l'écriture, en fait, je dirais toujours il y a deux phases. La première phase, on écrit pour soi. La deuxième phase, on essaie de faire partager aux autres. Et là, c'est merveilleux. Je dirais vraiment ça permet en fait, de maîtriser, en fait, de faire vraiment connaître. Parce que je vous dis, moi, avec ma première expérience avec le premier éditeur, j'étais extrêmement déçu de la manière dont on l'avait traité. Avec le deuxième, là, je sais qu'en fait, ça va marcher du feu de Dieu, parce qu'en fait, déjà, en fait, à l'origine, c'était un auto-éditeur aussi, lui, de son côté, qui a entièrement basculé du point de vue maison d'édition pure et dure. Donc, ce qui fait que derrière, il connaît, en fait, les principes, il sait aussi notre volonté, en fait, de se faire connaître. Donc, c'est vraiment très, très important.
D'accord, mais toi, satisfaction, insatisfaction, tu vas continuer ? Oui, tu as dit qu'il y en avait deux, tu en avais un l'an prochain.
Alors, je continue.
Non, les deux.
Les voilà. Deux, très satisfait.
D'accord. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Attends, on va te donner un micro.
Il y a eu. Oui, moi ça m'a tenté clairement. Oui, voilà, justement parce que. Moi je travaille dans le monde du livre hein, à plein temps, c'est mon métier. Mais donc, avec ma femme, on fait des traductions du russe et on a un mal de chien à placer des textes qui sont pourtant très bons, qui ont remporté plein de prix, qui sont des best-sellers dans leur pays. Mais en France, bon, bah, les éditeurs ne lisent pas le russe, donc ils ne font pas confiance. Et tout récemment, il y a eu un éditeur de jeux de plateau qui s'appelle Narrativis, un éditeur associatif, qui est passé par le site, je ne sais pas comment ça se prononce, Ulule ou quelque chose comme ça, pour essayer de placer justement un roman de fantasy russe dans la lignée de Tolkien.
Le dernier anneau.
Le dernier anneau. On s'est dit que l'initiative est originale, ça peut être intéressant, on va la soutenir. Donc on a souscrit nous-mêmes et on a suivi la chose. C'est un échec. Ils ont rassemblé la moitié de la somme et c'est tout. Donc, du coup, ben, ça se termine aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, nous, on ne le fera pas. Voilà, après, ce n'est pas des créations.
Quand la coterie, par exemple, tu es obligé de mettre 5000 euros sur la table, si déjà, grâce à ce système, tu espères 5000, mais tu ne mets que 2005, c'est déjà mieux que rien.
Alors, il y a des.
La différence des jeux vidéo, par exemple, déjà,
il y a des projets de BD qui ont été financés comme ça. Il y a notamment un blog de BD de Libération, une italienne à Paris ou quelque chose comme ça, qui s'est lancé ensuite pour faire une édition papier de ses dessins et qui a été jusqu'au bout. Mais parce que le blog est extrêmement suivi et qui est lui-même sur la plateforme en fait, d'un journal national.
Oui, bien sûr.
Ça aide. Le projet avait déjà une énorme visibilité avant.
Je peux parler aussi.
Bien sûr. Moi, je dirais, en tout cas, ça m'a... Enfin, on en a parlé, on m'a même suggéré dans mon entourage, on l'a dit tout à l'heure, déjà, faire un livre, c'est très chronophage. Si en plus, il faut s'occuper d'un blog, suivre les subscriptions de ça, moi, je, très vite, je me suis dit, ça va pas être possible hein, de
oui, mais
de
il y a
faire soi-même. Les subscriptions, on les suit pas soi-même là-dessus.
Ouais. Ah, d'accord, par un biais. Mais, et puis après, il y a ce côté hasardeux, dire est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on va récupérer comme argent. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, ça va. J'ai eu tendance à croire que ça allait être une source de stress, vraiment, finalement, pour moi, parce que là, du coup, dès qu'il y a des gens qui signent, on se met aussi la pression. Enfin, voilà, à titre personnel, j'ai vite oublié cette affaire-là. Quoi.
Moi je dois avouer que c'est une solution que j'utilise fréquemment. C'est-à-dire que quand je sors le dernier livre que j'ai sorti, mon imprimeur, ça a coûté 6000 euros. Je me suis dit, 6000 euros, c'est bien, je ne les ai pas. Donc j'ai lancé une souscription. Et évidemment, je n'ai pas réuni 6000 euros, hein. faut pas rêver non plus, mais j'ai suffisamment récupéré d'argent pour me réussir à lancer avec ce que j'avais en caisse pour pouvoir lancer l'impression. Et ben, les souscripteurs, ils sont contents. Je leur ai fait un petit prix par rapport au prix normal. Et moi, ça m'a permis de lancer l'impression, alors que sinon, au niveau de financier, ça aurait été un peu plus compliqué. Je pense que ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut être un appoint.
Mais tu es parti de ton propre site, tu n'as pas...
Non, je suis parti, encore une fois, je suis parti parce qu'il se trouve que ce qui est important quand on fait une souscription, c'est d'avoir une communauté qui suive un sujet. Donc là, on parlait de Libération, qui est... Un quotidien national. Moi, là, c'est sur. Il se trouve que je gère un forum de bande dessinée. Justement, là, c'était mon livre historique sur la bande dessinée. J'avais beaucoup de collectionneurs qui étaient sur le forum. Le sujet les intéressait. Donc, lancer une souscription auprès de ces gens-là, ça avait un sens.
Bien sûr. Ben, oui.
Et donc, effectivement, dans ces gens-là, moi, je savais que j'équilibrais à 150. J'ai réuni 75 souscriptions. J'avais le boulot était presque fait. Donc, ça peut avoir un sens. C'est pas une solution miracle. C'est pas. Pas forcément s'appuyer que là-dessus, mais il ne faut pas forcément l'écarter non plus d'emblée.
En général, la souscription, justement, c'est vraiment pour les projets, pour les livres vraiment porteurs, enfin les sujets porteurs. Il y avait un éditeur qui n'existe plus, qui était spécialisé dans le cinéma et le cinéma d'animation, et beaucoup de leurs bouquins étaient faits.
Oui.
Oui. Il y a une date butoir.
Oui. Mais moi, je lance la souscription genre 2 mois avant la sortie du bouquin. En fait, et il est prêt à sortir. J'ai juste à l'envoyer à l'imprimeur. Comme ça. Oui. C'est un peu différent. Évidemment, s'il faut attendre 3 ans pour avoir la sortie du bouquin, des fois, on peut attendre et que le bouquin n'arrive jamais. Donc, ça peut être aussi un piège. Vendu.
Un ami qui est auto-éditeur qui a sorti un bouquin très récemment et il m'a parlé de la difficulté, le fait que les distributeurs comme Harmonia Mundi, enfin, désolé si j'ai cité, mais beaucoup refusent justement de prendre en charge les auto-éditeurs, les mini-structures d'édition.
Oui.
Mais
ils refusent pas forcément, mais quand ils annoncent qu'ils veulent bien distribuer, mais il leur faut 5000 exemplaires et que le tirage n'est pas de 5000, oui. C'est compliqué.
Oui,
l'écrémage se fait automatiquement, et donc oui, c'est compliqué. Et après, on travaille avec des distributeurs qui travaillent sur des petites quantités, et donc ont des petits moyens, et des fois qui ne payent pas.
Oui, il se passe très vite.
Oui, mais ils ne payent pas, du coup.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Non.
Bien sûr, une petite remarque.
Alors, une dernière petite remarque.
Juste une remarque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon métier, c'est de faire des livres. Je travaille au CNRS, je fais la maquette d'une revue d'histoire et de livres d'histoire. Mais voilà, je fais la maquette. Quoi. Et d'être passé par le stade de l'auto-édition, ça m'a fait réfléchir quand même sur pas mal de choses parce que du coup, je suis devenu à la fois auteur, éditeur, correcteur, maquettiste, illustrateur. Et chargé de recherche, chargé de communication avec l'imprimeur. Du coup, maintenant, je peux dire que mes collègues, c'est pas des feignants. On se rend compte de bien des choses.
Bon, bah, écoutez, merci. Merci en tout cas à vous quatre. Merci à vous de nous avoir rejoints. Et puis, je pense que déjà, c'était quand même très intéressant, même pour vous, de partager ces expériences-là. Et tant mieux si le festival pouvait permettre ça, cet échange d'expériences.
Maintenant, il faut qu'on cause.
Voilà. Et causez donc entre vous.
Merci. Oui.